Radio Plus 104.3, la radio de votre région. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir une association. Cette association, c'est le Centre d'études généalogiques du Douaisis. Et nous recevons aujourd'hui son président, donc Monsieur Gilles Melville. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Eh bien donc, nous allons découvrir cette association. Et tout d'abord, est-ce qu'on peut présenter l'historique un petit peu de cette association?
Alors notre association, le Centre d'études généalogiques du Douaisis, qui est connu sous le nom de le CEGD, existe depuis bientôt 30 ans, depuis 1990 en fait. L'association au départ dépendait d'une autre association qui s'appelait le GGRN, qui s'appelle le GGRN, le groupement généalogique de la région Nord. Et puis ça s'est un peu spécialisé sur le Douaisis, et donc l'association a volé ses propres ailes à partir quelques années après pour devenir donc le CEGD. Et cette association a donc grandi, a pris son autonomie. Et en 2015, cette association a été reconnue d'intérêt général, ce qui prouve son sérieux et donc son dynamisme. On essaye donc de représenter notre association le plus possible dans la région du Douaisis et dans les régions périphériques en fait.
D'accord. Et vous-même, vous êtes tombé dedans.
Alors comment on tombe par hasard dans la généalogie. On tombe par hasard en fait. Mais on a ça dans le sang, en fait, on est curieux. Et à un moment ou à un autre de sa vie, on se pose la question de savoir d'où on vient, qui on est, pourquoi on est là, ce qu'on fait là dans le Douaisis, par exemple. Et moi, personnellement, j'ai découvert la généalogie par Internet, comme maintenant les gens découvrent, la plupart des personnes découvrent la généalogie par Internet, tout simplement en mettant dans un moteur de recherche son nom de famille. Et puis, miracle, on voit apparaître sur l'écran une foule de personnes qui s'appellent comme nous, qui ont le même patronyme que nous. Et puis, ces personnes ont déjà fait des recherches en généalogie. Et donc, on profite du travail des autres, on profite des recherches au départ, sans faire beaucoup de vérifications au départ. Parce que dès le départ, comme tout le monde, on essaie d'avoir beaucoup d'ancêtres, on est un peu grisé par le nombre. Voilà. Et on ne cherche pas à vérifier.
D'accord, c'est ça, donc justement, il y a des méthodes, c'est quand même une école.
Bien sûr. Le problème de la généalogie actuellement, et le problème d'Internet, c'est que les gens ne vérifient plus. Les gens prennent pour argent comptant tout ce qui est écrit, tout ce qui passe sur l'écran. Mais ça, c'est pas spécifique à la généalogie, c'est un peu général à tout ce qu'on trouve sur Internet. Les gens ne vérifient plus, les gens pensent que c'est la vérité. Ce qui est écrit, c'est la vérité. Or, ça, c'est le problème de la généalogie. On retrouve énormément de bêtises en ce moment sur Internet. Les gens pensent que tout est vrai. Il y a même certaines généalogies qui remontent à Toutankhamon. Donc c'est impossible.
Et donc généalogie veut dire aussi beaucoup de rigueur.
Ah, beaucoup de rigueur, c'est l'école de la patience, c'est l'école de la rigueur, c'est l'école de la curiosité. Voilà, c'est quand on fait de la généalogie, on ne sait jamais sur quoi on va déboucher. On pense faire de la généalogie et dans la journée on va faire de la géographie. On pense faire de la généalogie, on va faire de l'histoire. On pense qu'on va faire de la généalogie, on va faire un peu d'économie. Et puis, on fait une enquête policière. On est tout le temps en train de rechercher quelqu'un.
Donc, ça demande quand même une certaine connaissance de l'histoire, justement.
Au départ, il ne faut pas beaucoup de connaissances. Les connaissances, on les prend un peu à la fois. On s'enrichit tous les jours. C'est ce qui fait la vie, en fait. Hein. C'est bien de se coucher le soir en ayant appris quelque chose dans la journée.
Voilà, l'esprit, il faut être curieux.
Voilà, c'est super.
Curieux et patient.
Voilà, la patience, on ne trouve pas tout de suite. C'est un peu le défaut des débutants en généalogie. C'est la course au nombre. On essaie d'avoir beaucoup de personnes, d'avoir des centaines, voire des milliers d'ancêtres. Or, ce n'est pas le but.
Ouais.
Le but, ce n'est pas la course au nombre, ce n'est pas d'avoir une collection de morts, comme dit mon fils.
Oui.
Le but, c'est de découvrir, de faire revivre ses ancêtres. Voilà, c'est ça le but.
Alors, il y avait, on parlait en préparant cette émission, une religion qui s'appelait les Mormons, qui justement s'intéressait beaucoup à la généalogie.
Oui, voilà. En fait, les Mormons, ça c'est un peu l'Arlésienne, beaucoup de généalogistes en parlent, mais peu ont vraiment réfléchi à ce que c'était que pourquoi on parle des Mormons. Les Mormons, en fait, le vrai nom, c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est une religion qui est apparue au 19e siècle, avec un prophète aux États-Unis et qui a un peu grandi au fil du temps. Et il est apparu pour les Mormons, donc notamment à Salt Lake City, c'est le temple de la généalogie mormone. Et les mormons se sont rendus compte qu'en fait, avant l'apparition du prophète, tous les gens qui avaient vécu sur Terre n'avaient pas la possibilité d'avoir été baptisés par les mormons. Donc les mormons ont pris contact avec les différents gouvernements, notamment en France, et ont proposé de photographier tous les registres d'état civil, les registres paroissiaux, les registres d'état civil qui existaient, et de les photographier au départ, et d'en faire une copie donnée gratuitement aux archives départementales, aux archives nationales. Donc ça a évidemment intéressé beaucoup le gouvernement parce que c'était gratuit.
Bien sûr.
Et donc les mormons ont donc fait un travail de bénédictin et ont photographié énormément de registres et en ont fait donc les copies que les généalogistes maintenant ont retrouvées pendant des années et ont utilisées sous forme de microfilms. Donc les microfilms ont été déposés aux archives départementales et les généalogistes les ont utilisés en oubliant un peu à la fois que ça venait des mormons. D'accord ? Et actuellement, la technique ayant évolué, ces microfilms ont été numérisés et mis en ligne sur Internet. Et c'est ce qu'on trouve actuellement au niveau des archives départementales. On retrouve des scans, des numérisations de registres qui proviennent des mormons. Alors tout à l'heure, je parlais de la rigueur et des vérifications des données. Ce que je viens de parler des mormons explique pourquoi il faut être rigoureux. Il faut savoir qu'au départ, les registres ont été faits en double exemplaire. Il y avait la minute, c'était ce que le notaire, le clerc, le curé de l'époque remplissait. Et quelques temps après, il y avait une copie qui était faite. Ça s'appelle la grosse. Comme chez le notaire, quand vous passez faire un contrat chez le notaire actuellement, il y a la minute et la grosse. Et forcément, la grosse, c'est une copie. C'est une copie. Donc, qui dit copie, dit erreur.
Oui.
Hein, évidemment. L'erreur est humaine. Donc, ben la copie. Tout en sachant que quelquefois, les copies n'étaient pas faites dans l'instant. Les grosses étaient faites quelquefois quelques mois plus tard, en série. Par quelqu'un qui n'était pas forcément du village, qui n'était pas forcément du lieu. Et donc les patronymes étaient quelquefois remis, étaient échangés un peu.
Oui, j'en sais quelque chose. J'ai un nom bien simple qui est Lieven, L-I-E-V-E-N. Et bien souvent, on écrit L-I-E-V-I-N.
Voilà, voilà. Moi, j'ai personnellement un acte. J'ai retrouvé un acte sur Thumry où Milleville est écrit de trois façons différentes. Bon, mais c'était pas un problème parce que l'orthographe à l'époque ça n'existait pas. L'orthographe c'est une histoire moderne. Ça vient de Jules Ferry, avec les lois sur l'école au début du XXe siècle, où là vraiment ça s'est normalisé, ça s'est gravé en fait l'écriture des noms. Mais bon, Milleville ça peut s'écrire avec 4 L, avec 2 L, avec un S au bout. C'est comme Dupont et Dupont chez Tintin. Ça peut être un quinté ou un D. Voilà.
Exact.
Bon, mais ça c'est pas un problème. Le tout c'est de voir si c'est vraiment la même famille. Il faudra vérifier. D'accord. Donc je reviens à cette histoire des Mormons, c'est qu'il y a donc eu deux copies. Il y a eu deux copies et les Mormons ont photographié au départ une seule de ces copies.
Ah oui, d'accord.
Et comme par nature les gens sont un peu fainéants. on va au plus vite. On essaie de rationaliser le temps. Et donc les Mormons, quand ils ont eu l'occasion, ont fait ça en série. Et si c'était déposé, s'il y avait beaucoup de registres qui étaient déposés au niveau des archives départementales, ils ont photographié tous ces registres en lot, en nombre. Mais voilà, est-ce que c'était le registre original ou est-ce que c'était la copie?
C'est la grosse question.
C'était la grosse question. Et ensuite, on a numérisé ces microfilms. Donc maintenant, ce qui est sur Internet, est-ce que c'est l'original ou est-ce que c'est la copie?
Donc il y a un travail de vérification obligatoire.
Voilà. Alors maintenant, les généalogistes amateurs qui découvrent la généalogie par Internet prennent pour argent comptant ce qu'ils trouvent sur Internet en disant « ça vient des archives départementales, donc c'est la vérité
». Donc il y a une mise en garde à faire.
Voilà, il y a une mise en garde à faire. Il faut essayer de voir, dans la plupart du temps, avoir les deux registres et vérifier.
Ik denk nog vaak aan kleine Jacques, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held geschrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was, dat was Sjaki van de Hoek. Nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. En ieder ging zijn eigen weg en Sjaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Sjaak kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet Sjors, de ander Sjaak, toe maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek.
Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et donc aujourd'hui, nous recevons Gilles qui nous présente l'association du Centre d'études généalogiques du Douaisi. Gilles, donc on a parlé des copies, la minute de la grosse. Justement, quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut commencer son arbre généalogique?
Alors, ça dépend si on a déjà quelque chose ou si on démarre vraiment de zéro. Démarrer de zéro, tout le monde peut le faire. On a tous chez soi les documents de ses parents, forcément. Mmh. On a les registres... de mariage, on a le
livret de famille.
Le livret de famille, voilà. Alors on peut démarrer tout simplement en partant de soi. Il faut tout le temps démarrer de soi, ou alors de ses petits-enfants, ou de ses enfants, évidemment. Mais en partant de soi, on essaye d'avoir déjà tous les renseignements sur ce parent, sur son père, sur sa mère. On essaye d'avoir les actes. C'est facile, il suffit de les demander aux mairies. Ou de se déplacer, ou d'envoyer une enveloppe avec une demande et puis une enveloppe pour la réponse, évidemment. Puis être un peu patient, les employés de la mairie n'ont pas que ça à faire.
Bien sûr.
Donc en étant poli, en demandant systématiquement l'acte de mariage de ses parents, en donnant la date, on demande l'acte de naissance, l'acte de décès éventuellement si c'est arrivé. Et donc dessus, on lit déjà tout simplement, tout proprement, patiemment tout ce qui est écrit sur l'acte. On survole pas. Dans l'acte, il y a toujours un petit détail qu'on a zappé, qu'on n'a pas vu. Et puis, éventuellement, dans cet acte, on voit où les parents sont nés, où les parents, quelquefois, ont divorcé.
C'est dans les accidents de la vie, oui.
Voilà, c'est la vie. Donc, on a plein de renseignements. Et puis, quand on a... forcément les renseignements sur les parents de ses parents, on recommence à redemander les actes. Alors, il y a trois actes à avoir, l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès. Ce sont les trois périodes importantes de la vie, en fait.
Oui, en effet.
Donc après, le reste, c'est du rab, je vais dire. Mmh. Hein, mais on peut avoir beaucoup de renseignements supplémentaires. Il faut bien sûr les garder, bien sûr les stocker, bien sûr. Tous les renseignements concernant les personnes sont valables. On peut les garder, on peut les archiver. Au contraire, ça redonne de l'épaisseur à ses ancêtres. Et donc, on va redemander ces actes pour la période à peu près, je vais dire, de 100 ans, une centaine d'années. Donc, ça, à peu près, ça remonte aux arrière-grands-parents. Quelquefois, c'est déjà difficile. Hein. Pour certaines familles, on a les parents, les grands-parents, oui, mais les arrière-grands-parents, c'est déjà un peu plus difficile, quelquefois. Mais en demandant les actes, on retrouve ces noms. On retrouve ces noms. En s'organisant, on va faire en sorte de donner un numéro à chaque ancêtre.
D'accord.
Pourquoi mettre un numéro à chaque ancêtre? Parce qu'il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin.
Oui.
Hein, donc des Jean-Baptiste Petit, on en parlait tout à l'heure, il peut y en avoir beaucoup, des Jean-Baptiste
Petit. Oui, d'autant que la fréquence des prénoms était moins large qu'aujourd'hui.
Voilà, bien sûr. Alors donc, on va mettre un numéro, ça s'appelle un numéro de SOSA, S-O-S-A, à chaque ancêtre. Donc on part du numéro 1, de la personne de qui on est en train de faire la généalogie. Ensuite, on va utiliser le nombre pair, hein, on va multiplier par 2 pour avoir le numéro du pair. C'est facile, le pair, ouais. P-E-R-E et P-E-A-I-R-E. D'accord ? Donc le pair va être le numéro 2. Et le pair, forcément, il a eu le numéro 1 avec la maman. Et la maman, on met plus 1 au numéro du pair. Donc on part de soi, numéro 1. Le pair, c'est le numéro 2. La mère, c'est le numéro 3.
D'accord.
Et ensuite, on reproduit ce système en multipliant par 2 le numéro de SOSA pour avoir le numéro du père, plus 1 pour la mère. Donc, je répète, le 1, celui dont on fait la généalogie, le père, numéro 2, la mère, numéro 3, le grand-père paternel va avoir le numéro 4, la grand-mère paternelle va avoir le numéro 5, le grand-père maternel va avoir le numéro 6, et la grand-mère maternelle va avoir le numéro 7.
Donc très vite, ça se multiplie.
Voilà. Donc on a déjà 1, 2, 4. Et forcément, la génération au-dessus aura 8, 8 ancêtres. Et après 16, 32. Et on arrive à un nombre important très rapidement. Hein.
Mais parce que là, le risque aussi, c'est de dire, bon, ben, j'ai un père, j'ai une mère. Mais comment je me dirige? Je me dirige uniquement sur la branche du père ou de la mère?
Chacun décide. On peut tout à fait rester sur la branche paternelle.
Oui.
Il faut savoir quand même qu'on on descend de tous les ancêtres.
Oui, certes. Hein,
c'est pas, il ne faut pas rester seulement sur le nom du père. La mère, elle est importante. Hein, ouais, tous les ancêtres sont importants. Donc, si on remonte à 16, 32, 64, 128, si une de ces personnes avait été absente, on ne serait pas là.
En effet.
Voilà. Et donc, tout le monde est important dans les ancêtres. Hein. On dit souvent que... Alors, bien sûr, on va remonter... Au fil du temps, on va arriver dans les périodes historiques et on va chercher. Les généalogistes cherchent un seigneur, cherchent quelque chose de l'homme. Ça dépend.
Un peu du fantasme aussi.
Ouais. Alors, il faut savoir qu'en généalogie, on a tous dans nos ancêtres un roi et un pendu. Un roi et un pendu. Alors, généralement, on cherche le roi, le pendu, on essaye de l'ignorer. Mais si le pendu n'avait pas été là, on ne serait pas là non plus.
En effet.
Et bien souvent, l'histoire est plus intéressante du côté du pendu. Du côté du roi. Voilà. Donc ça, c'est... il faut donc donner un numéro à chaque ancêtre. Et après, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Si vous me parlez d'un ancêtre qui a dont le numéro est le numéro 129, bon déjà, je sais que c'est une épouse, c'est une femme.
Ouais.
Hein, et je peux déjà, dans ma tête, savoir à peu près quelle génération, à quelle époque on va se situer. Et donc, au niveau des recherches, là, tout à l'heure, je parlais des recherches. On part de la cellule familiale pendant les 100 premières années. Et après, un peu plus loin, on va donc passer par le canal des associations, par exemple, ou par le canal d'Internet, où on va retrouver facilement les actes, les travaux qui ont été faits par d'autres généalogistes. Parce que, bon, il faut savoir que la généalogie, elle existe quand même depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Hein? Donc, il y a déjà des travaux qui ont été faits. Et donc, on peut s'appuyer sur ces travaux pour démarrer rapidement sa généalogie, tout en gardant ce que je disais tout à l'heure, l'aspect « je vérifie
voilà. ».
Je vérifie. Et je ne diffuse pas des bêtises.
Oui.
Voilà, je ne participe pas à l'erreur collective actuellement sur Internet.
Voilà. Pas se précipiter, prendre
voilà,
le temps.
Voilà, faut pas se précipiter, faut pas se précipiter.
Alors, est-ce que la généalogie, c'est une affaire de, uniquement de gens aux cheveux blancs ou est-ce qu'on peut s'intéresser
Non, c'est pas une histoire. Bien sûr, la plupart des généalogistes actuellement sont des personnes d'un certain âge. Pourquoi ? Parce que la généalogie, il faut savoir que c'est chronophage. Comme toute passion. Comme toute passion, en fait. Les gens qui font des mots croisés vont passer beaucoup de temps à faire des mots croisés. Les gens qui font des sudoku vont passer beaucoup de temps à faire des sudoku. Les gens qui se passionnent à regarder les séries à la télé passent beaucoup de temps devant la télévision. Les gens qui font de la généalogie vont passer beaucoup de temps à faire de la généalogie. Donc, c'est pas une histoire de... Ça prend du temps. Après, au niveau des personnes, tout le monde peut faire sa généalogie. Tout le monde. Il ne faut pas être spécialiste. Les spécialistes, vraiment, à une époque, c'était vrai, bien sûr l'apanage des nobles. Au départ, la généalogie, c'était faire en sorte de garder ses quartiers de noblesse.
Bien sûr.
On était nobles. Il fallait surtout prouver qu'on était nobles et garder les avantages qu'on allait avoir. Donc, c'était ça, la généalogie. Il fallait prouver qu'on dépendait d'un ancêtre, d'un seigneur qui avait été noble, et donc on gardait sa noblesse. Maintenant, c'est plus le cas. La généalogie, maintenant, ça s'adresse à tout le monde. Bien sûr, ça s'est démocratisé, heureusement. Et c'est tout à fait facile, comme je disais, à démarrer. Mais c'est aussi... comment je vais dire ça ? C'est important que tout le monde puisse s'y mettre. On retrouve, nous, par exemple, dans nos associations, aussi bien des professeurs d'université que des ouvriers. Eh bien, heureusement. Et tout le monde est capable de rentrer en généalogie, tout le monde est capable de faire ses recherches très facilement, et ça n'est plus du tout, comme je disais, l'apanage d'une certaine élite, chose que les gens pensent encore quelquefois en se disant c'est réservé à une certaine... il faut avoir beaucoup de connaissances. Non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Donc, aussi bien des retraités, tout à l'heure je parlais, il faut avoir du temps, donc il faut être retraité, enfin, il faut pas être retraité, justement. Il faut avoir du temps, avoir de la passion. Alors, actuellement, dans nos associations, il y a beaucoup de cheveux blancs, ou alors de personnes aux cheveux, au crâne dégarni comme moi. Mais c'est pourquoi ? C'est parce que c'est juste une histoire d'intérêt et de temps. Et les gens, donc, rentrent en généalogie à un certain âge, c'est vrai, mais aussi quelquefois par histoire familiale. Parce que, bon, on rentre en généalogie on se rend compte dans l'association que les gens arrivent dans nos associations parce qu'ils viennent de perdre leurs parents. Ils viennent de perdre leur père ou leur mère, et puis ils retrouvent dans un tiroir un document en disant « Tiens, ça, j'avais jamais vu, puis j'ai oublié de demander, j'ai jamais pensé à demander ça à mon père ou à ma mère, et puis je reste sur un point d'interrogation, sur quelque chose d'inachevé, et j'ai envie, par le biais d'une association, d'essayer de retrouver tout ça. » Donc nous, quelquefois, on y arrive, mais on n'y arrive pas toujours. En généalogie, on commence... On ne sait jamais quand ça finit, et ça finira jamais d'ailleurs. La généalogie, on ne finit jamais sa généalogie. Les gens me demandent souvent, en disant, oh, vous êtes spécialiste, entre guillemets, parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Mais les gens me disent, vous avez fini votre généalogie alors ? Ben non, on ne la finit pas. N'importe quel ancêtre que l'on va trouver a lui aussi un père et une mère qu'on va essayer de rechercher à son tour. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que ça ne se termine justement jamais. Donc ça s'adresse aux gens, la généalogie, aux gens d'un certain âge, mais ça s'adresse, nous, ce qu'on cherche au niveau de l'association, c'est justement d'intéresser les enfants, les jeunes, de faire en sorte que les jeunes arrivent à la généalogie, et on essaye, nous, de leur donner le virus, parce que la généalogie, c'est un virus. Quand on l'attrape, on essaye de le soigner, le virus, mais on n'y arrive pas. On reste toute sa vie avec. Voilà.
Et d'ailleurs, vous avez élaboré un petit opuscule justement en direction des jeunes enfants.
Voilà, il y a quelques années, on a fait un ouvrage qui s'appelle « Sais-tu quitter ?» Sais-tu quitter, bon, le jeu de mots, évidemment.
Bien sûr.
Et ça s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Alors pourquoi à partir de 8 ans ? Parce qu'il faut quand même savoir lire un petit peu.
Oui, bien sûr.
Il faut aussi être capable de s'organiser un peu. Alors, « Sais-tu quitter ?» c'est un petit ouvrage qui fait une vingtaine de pages, que nous, on vend au niveau de notre association. Mais ça s'adresse... On ne fait pas sa généalogie. On ne demande pas aux enfants de faire la généalogie. On essaie de leur donner le virus, le virus de la recherche, le virus de se passionner, de retrouver un peu l'histoire. Alors, dans « Sais-tu quitter ?», une des premières choses qu'on leur demande, c'est « Tu t'appelles comment ? Quel est ton prénom ? Et ton prénom, qu'est-ce qu'il a choisi ? Papa ou maman ? Et pourquoi tu t'appelles comme ça ?» Alors souvent, même les parents n'ont jamais pensé à dire ça à leurs enfants. Et quand on gratte un peu, on se rend compte que le prénom, bon, il y a quelquefois un prénom moderne qui arrive, hein, qui arrive dans l'air du temps. Mais en second prénom, il y a souvent le nom du grand-père, ou le nom d'une personne qui vient de décéder, ou
d'un parrain, d'une marraine.
Voilà, voilà. Mmh. Il y a tout le temps. Et les enfants découvrent ça en disant, tiens, je m'appelle comme ça. Pourquoi? Je ne savais pas, en fait. Bon, ça, c'est une des activités qu'on demande. Par exemple, on demande aux enfants aussi quelque chose qui est important, que nous, on trouve que c'est important. On demande aux enfants, on leur donne la mission de, quand une journée où on est en vacances chez mamie, par exemple, hein, où il pleut et mamie, elle ne sait pas quoi faire avec les enfants, et on dit aux enfants, bah, tu demandes à mamie, dans un tiroir à la maison ou dans une boîte à chaussures, il y a forcément un paquet de photos qui traîne, qui est là, qui dort depuis des années. Et puis avec papy ou avec mamie, tu vas te mettre en regarder les photos, puis tu vas demander qui est-ce qui est sur la photo. Et derrière, au crayon gris, comme ça on pourra gommer par la suite, hein, au crayon gris, tu vas écrire le nom des personnes qui sont sur les photos, la date à peu près, l'année, quand est-ce que ça s'est passé, et ce que c'était comme événement. Et ça, ça va être déjà des archives familiales qui vont se créer un peu à la fois. Et pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que au décès des grands-parents, bien souvent, on vide la maison, on vide les tiroirs, la boîte à chaussures avec les photos, ben elle part à la poubelle parce que plus personne ne sait qui est dessus. Oui. Et ça, c'est une catastrophe au niveau généalogique.
C'est une perte de mémoire, en effet.
C'est une perte de mémoire au niveau de la famille. Alors que là, c'est une activité toute simple qui va passionner l'enfant, mais qui va passionner la mamie ou le papy, hein, parce que parler de sa famille, c'est ce que tout le monde veut faire.
C'est valorisant, en effet.
C'est valorisant. Et donc ça, c'est une des activités, par exemple, qu'on va retrouver dans cette équité. Bien sûr, il y a une activité pour faire son arbre généalogique, avec quelques générations, bien sûr. Mais plein d'autres activités comme ça. Et donc, nous, on a diffusé ça de manière extraordinaire. Hein. Ça a eu un succès énorme. Ça a un succès énorme encore, parce qu'on continue à le diffuser. Notamment au niveau des activités des NAP. Les nouvelles activités périscolaires. Mmh. Hein. Bon, malheureusement, ça a disparu.
Oui.
Mais nous, on a diffusé ça dans toutes les, dans tous les villes, dans les villages entourant Douai, au moment des nappes. Hein, et ça a vraiment rencontré un succès extraordinaire.
Ben, je pense que les professeurs d'histoire, ça peut être des précieux alliés pour vous.
Voilà, ça peut être aussi au niveau des écoles. Ça peut être, on a vu ça aussi au niveau des centres de loisirs, par exemple. Hein, ça peut être une activité de centre de loisirs. Et donc voilà, donc ça s'appelle Sais-tu quitter. Et ça se retrouve sur notre site internet.
En als ik weg wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Even weg van Holland, en Vlaanderen is dichtbij. En als ik vrij wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Ik voel me zo verlicht, als ik Vlaanderen binnenrij. Even weg van alle dingen, die ik thuis vaak moet verdringen. Nieuwe dagen, nieuwe nachten, open voor het onverwachte. Ik voel me in Vlaanderen zorgeloos, ik voel me in Vlaanderen vrij. En als ik lachen wil, ga ik naar Vlaanderen. Want ze lachen niet zo gauw, maar als ze lachen, is dat echt. En als ik praten wil, ga ik naar Vlaanderen, waar het laatste woord voorlopig nog door niemand is gezegd. Waar gesprekken altijd duren, tot de eerste morgenuren, waar ze eindeloos kunnen drammen, waar de ruzie op kan vlammen. Waar de reden twist uiteindelijk bij het bier weer wordt beslecht. Wil ik naar Vlaanderen, omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt. En als ik heimwee heb, wil ik naar Vlaanderen, omdat in Vlaanderen mijn heimwee ongemerkt versmelt. Met een even oud verlangen dat in Vlaanderen is blijven hangen, in de dorpen en de steden. Met een rijk maar zwaar verleden, dat Brussel in zijn logboek niet
liever niet vermeld. Ik verlang naar jou, dus kom naar Vlaanderen. Ik kan hier nog niet weg, want ik heb hier nog te doen. Als jij naar mij verlangt, kom dan naar Vlaanderen. Dan laat ik het je zien, Vlaanderen nu en dat van toen. De mensen en de dingen, waar ze in Vlaanderen van zingen. Ik blijf hier nog wat spelen, maar wij kunnen Vlaanderen delen. Want Vlaanderen komt dichterbij, met ieder nieuw seizoen.
Paul Van Vliet, vous interprétez Vlaanderen, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous recevons donc Gilles pour nous présenter l'association Centre d'études généalogiques du Douaisis. Alors Gilles, ce n'échappe à personne ici, on est sur une zone de frontière qui a été fluctuante au cours de l'histoire. Hein. On va pas faire un cours d'histoire ici, mais néanmoins, est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire dans la recherche justement de nos ancêtres?
Alors, c'est pas vraiment une difficulté. Bien sûr, il y a la barrière quelquefois de la langue. Enfin, nous, on est vraiment spécialisé sur le Douaisis, les 64 communes de Douai et autour de Douai, et puis un peu les communes adjacentes, enfin qui collent le Douaisis. Donc là, on a la chance au niveau de Douai que c'est le français qui était vraiment utilisé au niveau des actes anciens. Mais c'est vrai que il y a eu des passages de belges, je vais dire, un belge flamand, qui sont passés au niveau de Douai. Donc, quelquefois, on a des actes écrits en flamand. Mmh. Donc, c'est vrai que ça peut poser quelquefois un problème. Mais enfin, nous, au niveau de l'association, on a quand même des gens qui sont spécialistes de tout ça et qui aident justement à traduire ces actes. Mais enfin, le problème, il peut se poser aussi, c'est pas seulement une histoire de flamand ou de français, ça peut être aussi une histoire de latin, tout simplement, de latin et français. Hein, les actes, à une certaine époque, dans certains villages, étaient en latin. Hein. Ça peut être aussi, on est dans une région où on a beaucoup d'ancêtres qui viennent de l'étranger. Polonais, par exemple. Bon, oui. Ça peut être les actes peuvent être quelquefois en allemand, en polonais. Bon, on a des personnes chez nous qui sont capables de les traduire et d'aider justement. C'est ça l'intérêt des associations. Hein. Voilà.
Et dans là, on découvre l'histoire justement.
Bien sûr, justement, on découvre les migrations, on découvre que la frontière, bon, elle n'a pas tout le temps été là où elle est actuellement.
Hein. Tout à fait.
Douai, c'était la frontière. Hein.
Oui,
c'était la frontière. Hein. Douai, il y avait les remparts, c'était une ville fortifiée, hein, justement, qui dépendait de la frontière. Hein. Et quand on regarde bien, les grandes batailles de France sont pas loin de Douai. Hein. La bataille de Mons-en-Pevel, la bataille de Bouvines.
Exactement. Courtrai, tout ça.
Voilà, ce sont des batailles qui étaient là près de la frontière.
Douai, c'était aussi une ville de garnison, donc il y a dû avoir des mariages entre les filles du pays et certains soldats.
Militaires, bien sûr, évidemment. Et donc, justement, l'intérêt de la généalogie, c'est de faire cette histoire, de découvrir un peu ça. On peut se passionner, certains généalogistes se découvrent une vocation d'historien à ce moment-là, hein, parce que c'est passionnant de voir que, par exemple, les militaires... De où ils venaient, pourquoi ils sont venus là, à quel moment, pourquoi ils sont repartis, pourquoi ils sont restés sur place,
ouais,
quelquefois. Hein, voilà. Et donc, au niveau des Flandres, nous, on a la chance, au niveau de notre association, c'est de participer, d'être partie prenante, d'être adhérent d'une fédération, d'une union d'associations généalogiques, pardon, qui s'appelle l'URAG, URAG, qui veut dire Union Régionale des Associations de Généalogie. Et donc, on fédère un certain nombre d'associations qui sont spécialisées. Alors, nous, on est spécialisés sur le Douaisis, mais il y en a d'autres qui sont spécialisés plutôt dans la région lilloise, d'autres dans la région de Valenciennes, d'autres au niveau de Cambrai, d'autres au niveau de Bailleul, dans les Flandres. Mmh. Hein, donc, eux sont tout à fait partie prenante pour traduire les actes en flamand.
Bien
hein.
sûr.
Et aussi, on a des associations belges. Hein, par exemple, il y en a une qui s'appelle Familie Kunde Flanderen, hein, qui est une association flamande, d'autres une plus wallonne, j'allais dire, hein, qui parle, qui est belge, hein, qui va donc plus au niveau du français. Hein. Mais voilà, donc on a des contacts au niveau de l'URAG, et forcément, les associations, on cède les unes par rapport aux autres.
Il y a une entraide entre...
Qui peut se faire entre les différentes associations. Voilà.
Alors justement, votre association, tout à l'heure, on a parlé d'un ouvrage que vous avez édité en direction des jeunes enfants, Sais-tu quitter, mais vous avez édité de nombreux ouvrages, on peut évoquer...
Voilà, ça c'est une particularité du CEGD, du Centre d'études généalogiques du Douaisis, c'est qu'on est éditeur, on édite beaucoup de publications. Hein. Par exemple, on publie chaque année 12 publications.
C'est un gros travail.
C'est énorme, c'est énorme. Hein. C'est 12 publications qui font entre 150 à 300 pages.
Hein. Oui.
On publie 3 publications par trimestre, donc ça fait 12. En plus de ça, on publie une revue qui s'appelle « Le lien généalogique du Douaisis ». Cette revue a 52 pages. Elle est distribuée gratuitement à nos adhérents. Hein. Dedans, il y a des questions-réponses, il y a de l'histoire, de la généalogie, de l'entraide, voilà, hein, il y a plein de choses qui se retrouvent à l'intérieur de cette revue. Mais aussi, ce qu'on publie aussi, c'est un hors-série par an. On essaie de sortir un hors-série en plus. Alors, le hors-série, pourquoi on appelle ça hors-série? Parce que ça sort un peu de la généalogie. On essaye de prendre un sujet hors généalogie et de le décliner en y mettant de la généalogie. Le dernier hors-série que l'on a publié, c'est l'histoire des familles des porteurs de Gaillan. Alors Gaillan, bien sûr, Gaillan, c'est le géant de Douai, hein, c'est l'emblème symbolique de la ville de Douai.
C'est un géant porté, dans la tradition.
C'est un géant porté, hein, c'est Gaillan, c'est le premier géant qui a existé dans la région. Hein, vous imaginez, on a retrouvé sa trace en 1530. Hein, imaginez, c'est 1530. Hein. Alors on parle souvent de la naissance de Gaillan en disant que c'est la naissance, que Gaillan est né en 1530. En fait, on n'en sait rien. Moi, je suis persuadé qu'il existait bien avant. Hein, mais 1530, à cette époque-là, Douai, il n'était pas français. Hein, c'était flamand.
Non. Tout à fait.
Voilà.
Il faisait partie des grands Pays-Bas.
Ouais, voilà.
Alors, espagnol.
Bon, Gaillan, on peut en parler un peu de l'histoire. Hein, on peut parler rapidement d'histoire de Gaillan. Bon, Gaillan, pourquoi Gaillan? Ça dépend de... C'était, au départ, ça représentait le saint patron de Douai, c'était Saint-Mauran.
Mmh.
Et pourquoi Saint-Mauran? Parce qu'on sortait Gaillan... le jour de la dédicace. Hein, la dédicace était une journée par an où il y avait un défilé religieux, où on sortait les figures, qu'on appelait les figures. Il y avait des chars, on sortait les petites filles, on les habillait bien, il y avait des chants, il y avait les prêtres, tout le monde se faisait une beauté, on sortait les statues, les reliques, et on défilait dans la ville pour impressionner les gens.
Bien sûr. Hein,
et ça ramenait beaucoup de public. Ça ramenait beaucoup de public. Jusqu'au jour où on voit les archives, nous montrent qu'en 1530, un géant, Gaillan, ça veut dire géant en flamand, en picard. Mm-hmm. Hein. Et donc, Gaillan est sorti, et ça a vraiment impressionné énormément les gens, énormément. De telle sorte que l'année suivante, en 1531, Géan a eu une femme, une épouse, Marie Cagenon, son épouse, hein, et qui après le couple a fait des enfants, hein. Ils ont eu des enfants, ils ont eu Jaco, le seigneur en devenir, Fillon, la demoiselle à marier, et le petit dernier Babin qui louche, hein, et que tous les douaisiens de sang doivent embrasser quand ils sont petits le jour des fêtes de Gaillan, justement pour ne pas loucher. C'est la tradition. Et donc Gaillan a tellement été impressionné et impressionnant dans les foules qu'il a fait des petits hors Douai. Et maintenant, encore maintenant, beaucoup de villes, beaucoup de villages créent leurs géants en oubliant que dans leur ADN, dans leur généalogie, existe Gaillan et qui est là, qui a été porté. Actuellement, Gaillan, il est porté par 6 personnes. Hein, c'est le plus grand, il fait 8,50 m de haut.
Vous imaginez? Ouais, on imagine son poids. Il doit être
voilà, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et donc, les porteurs de Gaillan, ils sont une cinquantaine maintenant à se relayer, à porter les géants, 6 pour monsieur, 6 pour madame, etc., etc. Il y a des quêteurs, quand on vient à Douai en début juillet, c'est la fête... pas nationale, mais quasiment.
Ah oui, c'est réputé.
Voilà, c'est très réputé les fêtes de Gaillan. Et donc, j'invite tout le monde à participer à ces fêtes, hein, le dimanche en début juillet. Hein. C'est quelque chose d'impressionnant. Les gens n'imaginent pas, on parle souvent des férias de Nîmes, de Bayonne, etc. Mais les gens, ils ont là, tout près de chez eux, il y a Gaillan qui est impressionnant, avec un défilé extraordinaire. Et donc, les géants sont portés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que maintenant, la plupart des géants sont sur roulettes.
Oui.
Ah, c'est un sacrilège.
Tout à fait. Je suis d'accord avec vous.
C'est un sacrilège de mettre des roulettes. Hein. Et donc, Gaillan ne sera jamais mis sur des roulettes parce que maintenant, il est reconnu par l'UNESCO.
Oui.
Donc,
Il y a des critères qui sont respectés.
Voilà. Donc, nous, on a fait un hors-série. Je reviens au niveau des publications que l'on a faites. Là, le hors-série, on a travaillé sur les porteurs de Gaillan. Ils sont une cinquantaine à se relayer et être dans la famille Gaillan. Et quand on discutait avec eux, ils se disaient, nous, on fait partie d'une famille parce qu'on est cousins. Alors nous, forcément, généalogie...
Ça vous a interpellé.
Ça nous a interpellé. Hein, Gaillan, comment on peut être cousins? Et en fait, ils avaient oublié. Ils ne savaient plus. Plus personne ne savait comment ils étaient cousins, en fait, depuis des années. Et nous, on a gratté pendant un an. On a essayé de faire ça. Et effectivement, on a réussi à retrouver un lien généalogique entre toutes ces familles. Effectivement, on a dégagé 14 grandes familles qui sont là depuis des générations et et on est remonté jusqu'à 1900 de manière certaine ou quasiment certaine jusqu'à 1910. Mmh. Hein, donc c'est énorme déjà, hein, ça fait plus de 100 ans. Et effectivement, ces familles sont là, sont présentes de père en fils quelquefois. Bon, alors ils sont pas tout à fait cousins. Hein, mmh. Ils ont un lien généalogique. Quelquefois c'est le beau garçon.
Par alliance.
Voilà, par alliance. Hein. Mais ils ont tous un lien familial et c'est vrai que c'est une famille qui porte la famille Gaillan. En fait, les porteurs de Gaillan, moi j'ai plaisir à dire que ce sont l'âme de Gaillan. Mmh. Hein, ceux qui font vivre les géants et les géants sans eux, ils ne vivraient pas.
Et donc vous avez consacré un ouvrage.
Un bouquin ouais, qui s'appelle Histoire de famille, porteur et quêteur de la famille Gaillan et qui est diffusable et qu'on peut retrouver sur notre site internet lecegd.fr. Voilà.
Voilà, donc on peut se procurer.
Voilà, on peut le commander, c'est quelque chose aussi qui a fonctionné très très bien.
D'accord. Voilà. Alors d'autres ouvrages que vous avez publiés voilà. En particulier, qui sont en destination de...
Alors on fait des ouvrages plus spécialisés, j'allais dire. Pour faire sa généalogie, tout le monde n'a pas Internet. Hmm. Hein, tout le monde n'a pas Internet, même si on pense que c'est quelque chose... les gens quelquefois ont Internet, mais ils ne maîtrisent pas bien. Et donc, la plupart, je parlais déjà des personnes qui auront les cheveux blancs, les cheveux
ouais,
pas de
ouais,
cheveux.
Qu'ils ont pas,
y a une génération qui préfère encore le papier. Hein, mmh. Et donc, nous, on publie nos ouvrages sous forme papier aussi. On peut les avoir sous forme numérique sur Internet. On peut les avoir très facilement sur Internet. Mais on les diffuse aussi au niveau papier. Et donc, on a ces publications, par exemple, on met à disposition des généalogistes des relevés. Que les bénévoles, parce que dans notre association, on est tous bénévoles, bien sûr, les bénévoles passent leur vie à faire des relevés, c'est-à-dire ils lisent les actes dans les registres, les tapent sur un ordinateur, les remettent par ordre alphabétique, et nous, on les rediffuse. Par exemple, ça peut être les baptêmes de Saint-Jacques, ça peut être une des paroisses de Douai, ça peut être les contrats de mariage... de 1660 à 1669, ça peut être les échevins de Douai, la liste des échevins de Douai. Donc nous, on a un catalogue qui représente actuellement 320 ouvrages hein, qui ont été faits depuis la trentaine d'années que notre association existe et qu'on met à disposition des personnes qui veulent faire leur généalogie. C'est pratique parce que quand on habite Marseille, ou qu'on a envie de rechercher ses ancêtres sur Douai, on n'est pas obligé de se déplacer. On peut, par l'intermédiaire, bien sûr, par l'intermédiaire d'Internet, on peut le faire. Mais si on ne maîtrise pas Internet, on peut tout à fait les avoir sous forme papier. Nous, on peut expédier les ouvrages et puis les gens peuvent faire leur généalogie tranquillement chez eux, au coin du feu, en hiver. Voilà, c'est tout à fait faisable.
Alors, est-ce que moi, bon, je n'y connais strictement rien, j'ai envie de m'intéresser, ça y est, je suis en retraite, j'ai un peu de temps devant moi et puis j'ai découvert justement dans mes archives personnelles le vieux livret de famille du père, mais est-ce que vous donnez des cours, des formations?
Alors,
est-ce que je peux frapper à votre porte en
bien
disant...
Bien sûr. Alors, vous pouvez frapper à notre porte comme vous pouvez frapper à la porte d'autres associations. Hein, mais vous, chez nous, on vous accueille, par exemple, le deuxième mercredi et le quatrième mercredi du mois et le premier samedi du mois, après-midi, de 14h à 17h30. Donc nous, on est basé, on a notre bibliothèque et notre centre de permanence pour accueillir les gens. Ça se passe à la Maison des Associations à Douai, avenue des Potiers. Hein. Mmh. Bon, tout ça, ça se retrouve sur notre site internet, hein, lecegd.fr. Donc, nous, on vous accueille, même si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez venir passer chez nous au moment d'une permanence. On va essayer de vous mettre, de vous guider, de vous donner la passion, de vous donner le virus pour continuer. Et puis, on vous donnera les premières clés pour vous organiser, pour faire en sorte que la généalogie, ça devienne vite une passion chez vous.
Alors justement, au cours de début d'émission, vous parliez, eh bien, il y a le roi, il y a le pendu. Est-ce que il faut pas aussi des fois préparer psychologiquement celui qui fait recherche, parce qu'il y a une qualité aussi à avoir, peut-être un peu d'humilité.
Ah, il y a forcément un peu d'humilité, mais ça s'apprend vite. Hein, quand on se retrouve dans une impasse, on a tous besoin des autres. Alors, en généalogie, nous on est une association, et dans association, il y a associatif. Il faut s'associer, il faut s'aider. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. On se retrouve vite bloqué, on se retrouve vite devant une impasse où on ne sait plus. Beaucoup de gens viennent chez nous en ayant démarré leur généalogie simplement chez eux, puis après, ils ne savent plus quoi faire. Donc, ils arrivent chez nous avec un tas de documents disant « je suis perdu, comment je peux faire ?» Et nous, on dit bon, « on va recommencer, on va faire tranquillement, patiemment, en s'organisant pour qu'on reprenne du plaisir à ce qu'on fait dans la recherche des ancêtres. »
Voilà, donc donner un petit peu une méthode de travail qui est importante. Alors, pour adhérer à votre association, il y a une cotisation que...
Alors, la cotisation, bon, c'est vraiment une cotisation insignifiante. On demande 20 euros.
Oui, en effet.
On demande 20 euros par an. Avec ces 20 euros, vous êtes abonné automatiquement à notre revue. Hein, je parlais des 52 pages par trimestre, hein, ouais. Une revue qui est quand même très très fournie, très très intéressante. Enfin, moi je dis très intéressante, mais je pense que les adhérents pensent que c'est le cas. Avec ces 20 euros, donc vous avez la revue, vous avez la possibilité de participer à nos permanences. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez passer. On vous donne aussi un identifiant et un code d'accès pour avoir un accès sur notre site internet à des ressources supplémentaires. Déjà sur notre site internet, hein, je répète, cegd.fr, vous avez accès à plein de documents. Hein. Par exemple, pour démarrer, il y a vraiment l'explication pour démarrer, comment faire pour démarrer sa généalogie. Vous pouvez télécharger, imprimer des documents pour démarrer très facilement. Et après, pour les adhérents, on vous donne un code et un identifiant et on vous donne aussi des documents supplémentaires. Par exemple, on vous donne accès au contrat de mariage du Douaisis de 1710 à 1736, gratuitement. Donc ça, c'est énorme. Hein. C'est quand même un fonds documentaire énorme qu'on trouve qu'il faudrait passer je ne sais pas combien de temps aux archives départementales.
Donc vous faites vraiment un accompagnement un coût plus symbolique.
Voilà. Et l'intérêt aussi d'être adhérent chez nous, par exemple, et je parlais de la revue, le lien généalogique du Douaisis, on essaie justement de faire du lien, c'est qu'on a un système à l'intérieur de la revue de questions-réponses. C'est-à-dire que chaque adhérent chez nous peut poser dans cette revue 3 questions par trimestre.
D'accord.
Et nos adhérents, actuellement, on est 320 à peu près, hein, dans toute la France. Hein, on n'est pas seulement on a des adhérents dans toute la France. Avec ces 3 questions, les adhérents prennent ces questions et essayent d'y répondre de manière associative. Et donc, on met les réponses à ces questions dans la revue, dans un numéro, dans un des numéros suivants.
Une interactivité
On essaie que ce soit associatif. Hein, voilà.
Voilà, c'est pas uniquement, je suis pas simplement le consommateur.
C'est un peu le problème des adhérents maintenant. Mais ça, c'est le problème de toutes les associations, c'est que les gens sont de plus en plus consommateurs. Hein.
Ouais, c'est parce que bon, justement, il faut que ça soit interactif, voilà. Que ça soit vivant.
Voilà. Alors nous, on est tout à fait associatif parce que bon, on est 320 à peu près dans l'association, mais on est une quinzaine d'adhérents sur place, très très motivés pour faire en fonction. Bon, je vais parler de Jean-Paul, de Claudine, de Gérard, de Jean-Claude, etc., qui sont vraiment les piliers qui sont tout le temps là en train de faire des recherches, qui participent. On essaie de promouvoir notre association. On participe à des forums. Donc
oui, alors justement, ce que j'allais vous poser, parce que moi j'ai eu l'occasion de vous rencontrer sur un stand à Goncourt.
Hein, voilà.
Donc vous tenez aussi des stands un peu partout.
Voilà, on est associatif, on essaye, bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous on est passionnés et on essaye de...
Je sens bien que vous êtes passionnés.
On essaye de transmettre le virus, en fait. Hein.
D'accord.
Notre plaisir, c'est quand on a une nouvelle adhésion, hein, et on essaye que cet adhérent reste chez nous longtemps. D'ailleurs, les adhérents chez nous sont adhérents quelquefois depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et Quelquefois, on se dit, mais ils sont âgés, comment ils font plus de généalogie? Mais non, non, ils sont encore là, avec, ils sont là tant qu'ils peuvent, et ils vont essayer de remonter leurs ancêtres. Parce que je vous le disais tout à l'heure, la généalogie, on n'arrête jamais.
On arrête jamais. Alors, l'émission touche déjà à sa fin. Alors, peut-être pour nos auditeurs, rappelez vos coordonnées pour qu'ils puissent vous contacter.
Alors, le CEGDS, sur Internet, c'est le CEGD, LECEGD.fr. Tout simplement. Un numéro de téléphone, peut-être ?
Bien sûr.
Alors, le 06 23 78 17 80. 06 23 78 17 80. Où vous pouvez tout à fait écrire un courriel ou nous écrire à la Maison des Associations, Avenue des Potiers, à Douai. Voilà.
Donc, vous répétez l'adresse, c'est ?
Alors, l'adresse, on le CEGD, Maison des Associations, Avenue des Potiers, 59 500 Douai.
Voilà, et bien, il n'y a plus qu'à travailler, voilà.
On vous attend au CEGD, à bientôt.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Gilles, et puis je souhaite une bonne semaine à l'écoute de Radio Plus, bien sûr.
Merci, bonne journée.
Daar wil ik eeuwig blijven, in het licht van jouw verleden, droomden wij van later, in het zand van de liefde, nam de zee onze namen, ik wacht op jou zolang ik leef, in het land van mijn dromen. Ik wacht op jou zolang ik leef, waar mijn hart wil wonen. Wij horen bij elkaar, voor elkaar geboren. Zoveel voorbij gegaan, maar nooit verloren. Het is zo lang geleden. Waar zijn al die tijden? Het is zo lang geleden, maar mijn hart zal blijven in een land vol dromen, waar de rozen bloeiden onder de zon verscholen, waar de wijn ooit vloeide. Ik wacht op jou.